Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Les couilles sur la table, épisode 23. Je suis au Binge Audio Summer Festival dans le 11e arrondissement à Paris. Il fait 28 degrés, tout le monde transpire car cette émission est enregistrée en public. Tout le monde est très joyeux, c'est un festival qu'on fait avec tous les copains et les copines de Binge Audio qui font des podcasts puisque Binge Audio produit Les Couilles sur la Table et plein d'autres programmes super, des documentaires et des émissions qui parlent de sport, de hip-hop, de cuisine, d'actualité et de plein de trucs. Vous pouvez tous les retrouver et les binger, comme on dit, c'est-à-dire tout écouter d'un coup sur toutes vos applications de podcast et sur le site binge.audio. Dans ce tout dernier épisode de la saison des couilles sur la table, vous allez avoir la parole, chères auditrices et chers auditeurs. On va parler de testostérone, de sexualité, d'innés, d'acquis, d'hommes plus ou moins féministes. On va passer un coup de fil, piocher dans des essais, tenter de donner des conseils. Il y a quelques semaines, je vous ai demandé de m'envoyer vos questions par message audio pour qu'on termine l'année avec un épisode un peu différent. J'ai reçu plein de messages et c'est toujours un bonheur de vous lire. C'est super parce que souvent ce sont aussi des questions que je me pose. Vous allez voir, il y a que des femmes qui m'ont envoyé des fichiers audio. Il y a des hommes qui m'ont écrit et je vais aussi lire leurs messages. On commence tout de suite avec un gros morceau, c'est le message de Mélissa.
Bonjour Victoire et bonjour les couilles sur la table. Merci pour ce podcast, c'est vraiment chouette. Du coup j'avais une question, c'était comment je pourrais expliquer à ma mère qu'il y a des différences hommes-femmes certes, mais que c'est essentiellement des constructions sociales, parce que je crois que c'est ce que je crois, mais à chaque fois son argument c'est de parler des animaux ou des enfants quand ils sont tout petits, et de ces espèces d'instincts naturels qui sont censés être différents entre les garçons et les filles. Et c'est souvent un argument qui revient. Donc il y a pas mal de constructions sociales que j'arrive à donner comme exemple simple pour expliquer ça. Mais la notion de l'acquis et de l'inné, et dans quelle mesure on est quelque chose de neutre, une espèce de matière souple, dès notre arrivée sur Terre, ça je sais pas si quelqu'un au monde sait quel est le pourcentage d'inné et d'acquis, et que ce sera probablement une question qui ne sera jamais, à laquelle on ne pourra jamais répondre. Mais si t'as des éléments de réponse face à cet argument qui revient perpétuellement et qui me fatigue pour justifier malheureusement bien trop d'inégalités encore. Voilà, c'était ma question. Merci beaucoup.
Ah, cette vieille question de l'inné et de l'acquis. Franchement, Mélissa, je compatis. Moi aussi, j'arrête pas d'avoir cette conversation en boucle avec mes proches, avec des inconnus dans les bars et dans les repas de famille, et avec ma belle-sœur qui trouve que c'est normal si son mari range pas, parce que tu comprends, c'est l'évolution. Il a pas exactement le même champ de vision. Il voit plus loin parce qu'ils sont habitués à chasser des animaux dans la savane. Enfin... Je comprends. Et vraiment, je sais pas quoi faire de ces arguments biologiques, de ces histoires d'hommes préhistoriques, de singes et de comportements qui seraient ancrés dans nos gènes. Mais ils me paraissent assez peu fondés scientifiquement. Ce qui est sûr, c'est que dans l'idéologie populaire, la masculinité est considérée comme une conséquence naturelle de la biologie masculine. Par exemple, classique, la testostérone. Dans l'imaginaire collectif, la testostérone est responsable des comportements agressifs, risqués ou égoïstes des hommes. Dans les années 90, aux États-Unis, des criminels se sont mis à plaider la rage induite par une bouffée de testostérone pour expliquer leur passage à l'acte. Il y aurait plein d'études scientifiques pour corroborer cette idée. Mais le truc, c'est que il y a pas de science objective. Enfin, c'est-à-dire que les scientifiques sont aussi des humains, donc ils sont aussi soumis et influencés par des biais de genre. Et parfois, à force de vouloir trouver quelque chose, on finit par le trouver, et même par construire des études qui sont faites quasiment exprès pour démontrer le résultat qu'on avait en tête à la base, pour valider nos préjugés. Je te renvoie à un super article de la Cité des Sciences que je vais mettre sur le site qui raconte les différentes expériences qu'on a faites pour essayer de trouver quels étaient les effets réels de la testostérone sur le comportement. Et en fait, déjà, la plupart ont été faites sur des rats et pas sur des humains. Donc, on fonctionne pas exactement comme les rats. Je te conseille aussi de lire et de faire lire peut-être à ta mère un super article de Titu Lecoq sur Slate qui s'appelle « Ces études à la con qui nous prennent pour des connes ». On entend aussi beaucoup d'arguments sur le cerveau qui serait différent chez les hommes et chez les femmes. Bon, là, je peux te donner un argument. En fait, on sait qu'on a tous et toutes un cerveau différent, y compris les jumeaux. Notre cerveau est plastique, c'est-à-dire qu'il se modifie en permanence en fonction des activités, des expériences de vie. Et donc, le cerveau d'un homme est aussi différent de celui d'une femme qu'il est de celui d'un autre homme. En fait, on peut pas dire que d'un point de vue neurologique, les femmes et les hommes soient radicalement différents par nature. Voilà, ça c'est quelques éléments de réponse, mais en fait, je suis désolée, j'ai pas d'argument massue. Je comprends qu'il y a quelque chose de rassurant de se comparer aux animaux et donc de se dire qu'on peut pas changer nos comportements puisqu'ils seraient ancrés dans nos gènes, mais oui, moi aussi je pense que c'est en grande partie des fantasmes. Franchement, ça mérite des épisodes entiers et justement, c'est ce à quoi on va s'attaquer dès le mois de septembre dans la prochaine saison des Couilles sur la table, au lien entre la biologie et le genre.
Bonsoir Victoire. Je dis bonsoir parce que c'est le soir que je t'écoute et ça tombe bien parce que c'est aussi le soir que je me pose des questions compliquées. Ce soir, j'aimerais te parler de mon frère, de mon petit frère. On est très proches, je l'aime plus que tout au monde, mais parfois je le comprends pas. Je comprends pas son ambivalence. Pendant longtemps, j'avais jamais connu un jeune homme aussi respectueux des femmes que lui. Un jeune homme pour qui il était invraisemblable d'avoir des relations sexuelles avec une femme trop alcoolisée pour avoir les idées claires. Un jeune homme qui respectait sa mère, son père et ses trois grandes sœurs. Un jeune homme qui se bagarrait avec moi pour rire, exactement comme il le ferait avec un garçon. Sauf qu'aujourd'hui, ce jeune homme respectueux qui n'aurait rien compris au concept même du sexisme est devenu un homme aux réflexions étranges. En plein mouvement MeToo, il me sort le couplet du « ouais, mais du coup, on fait comment pour draguer, nous ?» Lui qui n'a jamais interpellé une femme dans la rue. Il se sent mal et désemparé quand il ne peut pas payer le restaurant ou offrir un beau bijou à sa copine. Il trouve que les poils sur une femme, c'est sale et n'a pas pu tenir 2 minutes devant le film « Je ne suis pas un homme facile ». Victoire ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi mon frère s'est perdu dans les limbes du patriarcat ? Et surtout, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça ? Comment je peux dire à mon petit frère qu'il est sexiste et le remettre sur la bonne voie ?
Chère Laura, eh bien, merci pour ton message, comme je te comprends. D'abord, moi aussi, j'ai un petit frère et ce que tu racontes me rappelle des souvenirs. Alors, pourquoi est-ce qu'il s'est perdu dans les limbes du patriarcat ? Bah, d'abord, le patriarcat, c'est un système, c'est comme l'air qu'on respire et l'eau dans laquelle on nage tout le temps, donc on peut pas vraiment dire qu'on peut en sortir ni s'y perdre. Après, il y a cette histoire de le remettre sur la bonne voie. En fait, et là, je crois que je te suis pas trop, Laura, parce que personnellement, je pense pas qu'on puisse changer qui que ce soit, et certainement pas les membres de sa famille. Donc j'ai envie de te dire de garder ton énergie, ménage tes efforts, tout ce que tu peux faire, c'est montrer l'exemple. Rester ouverte au dialogue, dire clairement quand tu te sens mal à l'aise, ne pas le juger. S'il n'est pas complètement fermé, peut-être qu'en fait il est en train de demander des conseils et que du coup tu peux essayer de raconter toi ou tes amis ou tes cousines des expériences qui vous ont plu ou lui faire entrevoir d'autres possibilités de rapports de genre autres que la drague bourrine ou le côté chevaleresque. Mais après, s'il a aucune envie de discuter, ça sert à rien. Parce que les opinions politiques en famille, j'ai l'impression que ça n'est jamais vraiment que de la politique. En fait, on peut revendiquer telle ou telle opinion parce qu'on a besoin à un moment de se construire contre ses parents ou contre ses trois sœurs aînées. Donc si ça se trouve, plus tu lui diras qu'il est sexiste, moins tu vas le convaincre de changer. Donc moi, mon conseil, c'est lâche l'affaire.
Bonjour Victoire, je m'appelle Coralie, j'ai 28 ans et je suis horlogère expatriée depuis plus d'un an et demi à Hong Kong. J'écoute vos podcasts en réparant les montres et merci pour toutes ces super émissions. J'ai notamment adoré les explications historiques et sociologiques sur les inégalités qu'on vit aujourd'hui au quotidien. Et ça fait du bien de me dire que tout ça est réel et que je ne suis pas paranoïaque. Je me sens moins seule. Pour ça, merci à vous et à tous vos intervenants. Je travaille dans un milieu très masculin. Je m'entends bien avec les hommes en général. Je me sens même au fil des années plus à l'aise dans des groupes d'hommes que de femmes. Et je pense aussi être appréciée de mes collègues. Malgré tout, je ne me sens pas prise au sérieux, pas écoutée, et même si je travaille depuis 6 ans et que j'ai un diplôme en horlogerie supérieur à la plupart de mes collègues, j'ai souvent l'impression d'être prise pour une débutante. Et pourtant, je travaille bien et sérieusement, et en essayant toujours de prouver mes réelles capacités. Que faire pour que cela change ? Se battre est-elle la seule solution ? Je voudrais juste être traitée d'égal à égal. Voilà, c'était ma question. Merci encore pour tout. Bisous.
Salut Coralie. Bah, c'est trop cool d'imaginer que quelque part, en traversant l'océan, à l'autre bout de la planète, tu écoutes ces podcasts tout en réparant de tout petits mécanismes horlogers. D'abord, je vais te dire que je te comprends. C'est relou de sentir que tu n'es pas prise au sérieux et c'est hyper fréquent quand on est une jeune femme dans tous les milieux professionnels. Et oui, c'est du pur sexisme. Et évidemment que tu veux être traitée d'égal à égal, c'est normal, c'est ton droit et en plus, c'est le futur. Ensuite, je vais te répondre la même chose qu'à Laura. En fait, on ne peut pas changer les gens. Tu peux pas changer l'opinion que les autres ont de toi, tu peux essayer, mais c'est beaucoup d'énergie perdue à mon avis. Tout ce que tu peux faire, c'est agir sur toi-même, c'est-à-dire sur ton état mental, sur ton attitude, ton estime de toi. C'est-à-dire que tu peux tout faire pour que les opinions de ces hommes qui ne te prennent pas au sérieux ne t'atteignent pas. Tu peux tout faire pour ne pas les laisser remettre en cause ce que toi, tu sais de ton travail, de ta qualité, de tes compétences. Et pour ça, c'est effectivement indispensable d'identifier précisément les comportements, les attitudes, les petites phrases, les situations qui trahissent leur misogynie et leur sexisme. Comme ça, tu sais que ça n'a rien à voir avec ton travail, ça a à voir avec leur représentation étriquée, leurs vieux préjugés, et quelque part, c'est leur problème. Ça t'évite de tomber dans des spirales d'auto-dévalorisation, de doutes que j'ai bien connues chez des amis, qui peuvent te miner. Et ça, c'est un grand classique chez les femmes aussi, parce que le sexisme insidieux, justement, comme c'est pas direct, c'est le genre de sexisme qui te mine et qui peut te faire te demander si tu es folle, si tu es nulle ou si tu es incompétente. Ensuite, tu peux te chercher des alliés. Est-ce qu'il y a d'autres femmes qui travaillent dans l'horlogerie avec qui tu pourrais échanger? Avec qui vous pourriez vous soutenir dans un groupe WhatsApp ou un groupe Facebook, par exemple? Nous, on fait ça avec des amis journalistes et je sais que ça se fait pas mal dans plein de milieux. Peut-être que tu vas pas les trouver à Hong Kong, mais tu pourrais les trouver sur Internet, sur Twitter ou via ton ancienne école. Une autre idée, est-ce que ça t'aiderait de trouver une mentor, c'est-à-dire une femme avec plus d'expérience, bienveillante, qui comprenne ce que tu vis et qui puisse te conseiller? Plus près de toi, peut-être qu'il y a des hommes dans ton atelier, à peu près de la même génération que toi, parce que je pense que le sexisme, c'est aussi une histoire de génération, avec qui tu pourrais en parler, à qui tu pourrais demander de te soutenir, et peut-être même de mettre en place des stratégies pour agir concrètement. Pour avoir des idées, je te conseille de lire un essai, en fait c'est un manuel, de la journaliste américaine Jessica Bennett. Ça s'appelle Feminist Fight Club. Donc c'est le même principe, c'est un peu différent, mais que le film Fight Club. Ça vient d'être traduit en français, ça s'appelle le Fight Club Féministe. Et en fait, c'est un manuel qui est plein d'astuces pratiques, fait exprès pour apprendre à combattre le sexisme insidieux dans le monde du travail. Bon courage, Coralie, et tiens-moi au courant. Maintenant, je vais vous lire le message de François-Xavier. Alors, François-Xavier, oui, parce que donc les hommes n'ont pas laissé de message audio. François-Xavier écrit la chose suivante. Il dit « Pour justifier leur domination, les masculinistes, donc on rappelle que ce n'est pas l'équivalent des féministes, prennent souvent comme exemple le fait que les hommes se suicident plus ou qu'ils obtiennent moins souvent la garde des enfants en cas de divorce. Les statistiques sur ces deux thèmes sont vraies, donc je me demandais quelle place avaient ces faits dans la réflexion sur le genre dans les men's studies. » Comment on pouvait les penser? Car les nier n'est pas la bonne solution, et les accepter en tant qu'argument antiféministe ne l'est pas non plus. Alors, salut François-Xavier. Ces chiffres sont justes, effectivement, mais il faut les nuancer. Par exemple, les hommes se suicident plus, mais les femmes font plus de tentatives de suicide. Les hommes obtiennent moins souvent la garde de leurs enfants en cas de divorce, mais c'est aussi parce qu'ils la demandent beaucoup moins. Et bien sûr que les chercheuses et les chercheurs en études de genre prennent en compte ces faits. En fait, pour résumer leur approche, l'expression la plus parlante, c'est les coûts de la domination masculine. En fait, ils ne s'intéressent pas aux coûts de la masculinité tout court, parce que ça, ce serait une approche masculiniste. Ça voudrait dire qu'on mettrait sur le même plan d'équivalence les discriminations et les violences subies par les femmes parce qu'elles sont des femmes et les conséquences néfastes des injonctions viriles subies par les hommes. Donc, ce n'est pas du tout ça qu'ils adoptent comme attitude. Et si tu veux en savoir plus, je te conseille un super recueil d'articles qui est tiré d'un colloque qui a eu lieu en 2012 à Rennes, à l'Université de Rennes. Ça s'appelle « Boys Don't Cry, les coups de la domination masculine » et c'est publié aux presses universitaires de Rennes. Mais on reviendra en profondeur sur ces questions aussi dans la prochaine saison.
Bonjour Victoire. Dans le dernier épisode, tu demandais si on avait des doutes et interrogations. Et moi, il y a une question qui me taraude depuis l'épisode avec Viken sur la transsexualité. C'est peut-être hyper ingénu et complètement déconnecté de la réalité, mais je me demande si la transsexualité ne découle pas des conceptions genrées. Au final, si on est cisgenre, c'est qu'on est satisfait avec tous les attributs et les manières d'être et de faire associés au sexe où on est né. Et si on est transgenre, c'est qu'on se retrouve mieux dans ceux du sexe opposé, non ? Pour reformuler, Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un monde, d'ici un siècle ou deux, où notre identité ne serait pas tellement définie dès la naissance par des caractéristiques genrées, et où le fait de naître garçon ou fille ne serait pas déterminant? Ce serait un élément de notre identité, comme être grand ou petit, avoir les yeux bleus ou marrons, mais personne n'aurait le besoin de changer de sexe, parce qu'il n'y aurait pas toutes ces représentations attachées avec. Voilà, j'espère que ma question n'est pas trop maladroite ni blessante pour qui que ce soit. Je n'ai pas l'intention de remettre en cause la démarche des personnes trans, mais j'essaie juste d'imaginer si les choses pourraient être différentes.
Alors, chère Pauline, c'est marrant parce qu'on a eu cette discussion. En fait, la question que tu poses résonne avec des discussions qu'on a eues à la rédaction de Binge après l'enregistrement de cet épisode avec Viken. Et en tant que femme cisgenre, je me sens pas vraiment légitime pour prendre la parole sur ce sujet. Je me suis donc dit que le mieux, c'était encore que Viken, qui était donc l'invité du 9e épisode, te réponde directement. Je lui ai passé un petit coup de fil et voici sa réaction après l'écoute de ton message.
En fait, il n'y a pas de réponse à cette question parce que on parle vraiment d'hypothèse, donc on ne peut pas savoir exactement comment ça pourrait se passer. Si les normes de genre n'étaient pas aussi présentes et marquées. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on peut être cisgenre et se poser des questions sur le genre. On n'est pas obligé d'être trans, en fait, pour avoir un cheminement de pensée là-dessus. Et je pense que c'est totalement sain de se poser des questions là-dessus, en fait, qu'on soit trans ou cis. Enfin, moi, personnellement, je me suis senti obligée de commencer des hormones juste quand je disais que j'étais un homme, on n'est pas du tout au sérieux. Donc, je me suis senti obligée de commencer les hormones pour que je sois respectée dans mon identité de genre. Donc, bon, ça posait d'autres problèmes par rapport à la perception que j'avais de moi-même, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, si ce n'était pas aussi marqué, si on avait vraiment respecté... en tant qu'homme, sans commencer des hormones masculinisantes, j'aurais jamais envisagé ce traitement hormonal, en fait, tout simplement. Donc,
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon du Cœur sur la Table et des Couilles sur la Table. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 000 lieues sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie quand elles étaient ados. À l'époque, elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire personnelle, Caroline Potier, qui est devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment mieux écouter les survivantes et les survivants d'inceste? Comment la police et la justice pourraient enfin mieux les traiter? Comment vivre avec? Et les agresseurs? Qu'est-ce qu'on en fait des agresseurs? Ce documentaire est beau, est intelligent, est bouleversant, et je pèse mes mots, il est d'utilité publique. Car en France, vous le savez sans doute, une personne sur 10 est victime d'inceste. Ça veut dire que nous sommes tous concernés dans notre métier ou dans nos relations personnelles. Dans cette série, vous apprendrez donc ce que nous pourrions tous et toutes faire si on veut un jour, enfin, éradiquer l'inceste. Alors pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 000 lieues sous ma chair » dans le podcast « Le cœur sur la table ».
Comme des personnes que je connais qui font des opérations juste pour pouvoir vivre, entre guillemets, tranquillement. Mais c'est pas pour ça, mais je pense que, enfin, même si, enfin, j'ai vraiment pas la réponse à cette question, mais je pense quand même que, en fait, que les personnes trans existeraient malgré tout. C'est juste que je pense que nos vies seraient sûrement plus simples, clairement. Mais je pense qu'on existerait quand même.
Toi, tu as commencé le traitement hormonal, non pas parce que ton propre corps, enfin, en fait, quelque part, il n'y aurait pas eu de regard social où les gens t'auraient accepté comme homme, auraient dit « Ok, bah, t'es un homme, tu n'aurais pas eu besoin de faire ce traitement-là, en fait. » Parce que toi, ton corps t'allait comme il était.
Oui, clairement. Enfin, en fait, on parle souvent de ce qu'on appelle, qui est un terme que j'aime pas du tout, mais on parle de dysphorie de genre, donc pour parler du fait qu'on se sent pas bien par rapport à des parties de son corps, donc enfin ce qu'on appelle, c'est quoi, les signes sexuels secondaires, donc qui viennent au moment de l'adolescence, donc que ce soit de la poitrine, de la barbe, donc, tout ça. Moi, personnellement, j'ai jamais eu de problème avec ces signes secondaires. C'est juste tout ce que ça représentait, moi, qui me posait problème.
Donc toi, t'en avais pas marre de tes seins, par exemple ?
Non, pas du tout. Enfin, c'est pas un truc qui m'embête dans ma vie de tous les jours. Ce qui m'embête, par contre, c'est le fait de devoir faire des efforts, parfois, pour les cacher, parce que j'ai pas envie d'être victime de violences transphobes parce que je suis un mec avec une paire de seins, hein. C'est aussi simple que ça, en fait. Donc il y a des choses que je peux pas faire dans ma vie de tous les jours, comme aller à la piscine ça fait quelques temps déjà que le fait d'aller à la mer, par exemple, pour moi c'est quelque chose qui est juste pas envisageable, tu vois. C'est un peu compliqué, mais bon.
Eh ben, merci beaucoup, Vikane, d'avoir pris le temps de répondre à la question de Pauline. Et merci, Pauline, pour ta question.
Avec grand plaisir.
Voilà, voilà sa réponse. Et donc, je ne sais pas si c'est trop possible d'imaginer un monde où il n'y aurait pas de genre. Est-ce que vraiment, on peut se dire que ça serait comme être blond ou brun ? Je ne sais pas non plus. Je suspends mon jugement sur cette question-là. Maintenant, on va parler de sexe avec un message de Christophe. Qui, j'ai l'impression, relaie une question dont on parle vachement entre copains, dans le monde hétéro plutôt. C'est, il dit « J'ai l'impression qu'être un homme qui ne se définit pas par une masculinité dominante, c'est assez bien accepté aujourd'hui, mais c'est encore très rigide quand on est dans le domaine sexuel. Du moins, c'est le ressenti que j'ai. On attend toujours de l'homme qu'il prenne les devants, montre sa force et domine. » Bah, salut Christophe. J'imagine que tu fais référence à la sexualité hétérosexuelle la plus commune, la plus classique. Tu dis qu'on attend toujours ça de l'homme. Mais en fait, moi, je ne sais pas qui attend ça. J'ai l'impression que les humains sont beaucoup plus curieux que ça et qu'on attend plein de choses différentes les uns des autres. Parce que notre érotisme, il est construit culturellement, mais c'est aussi des goûts qui nous sont propres. Est-ce que tu fais référence aux femmes hétérosexuelles qui attendraient ça ou alors aux attentes que les hommes plaquent sur eux-mêmes ? C'est vrai que nos scripts sexuels manquent de variété. Que ce soit dans la fiction, dans le porno, ou dans ce qu'on pense qu'il est acceptable de raconter à nos amis, ou de faire la première fois qu'on a une relation sexuelle avec un nouveau partenaire. L'homme hétérosexuel doit dominer, c'est-à-dire, en gros, toujours bander, pénétrer, ne surtout pas être pénétré et ne pas montrer ses sentiments. On en baille d'ennui tellement c'est répétitif. J'ai aussi l'impression que beaucoup d'hommes ne s'intéressent pas vraiment à la sexualité en tant que telle, mais qu'elle ne les intéresse que dans la mesure où elle sert à les rassurer sur le pouvoir qu'ils exercent sur les femmes. Ils cherchent une relation sexuelle pour prouver leur domination. Je pénètre, je baise, donc j'ai le pouvoir. Alors que si on s'intéresse autrement à la sexualité, si on cherche d'autres scripts sexuels, c'est-à-dire que si on se dit que la sexualité, c'est d'abord un lieu de plaisir, de sensualité, d'échange, bah, ça peut prendre des dimensions qu'on ne soupçonnait pas. Et pour ça, il faut remettre en cause nos vieilles représentations. Et il y a quelqu'un qui accomplit un formidable travail sur ce sujet, je trouve, depuis plusieurs années, c'est Maya Mazorette. Je vais d'ailleurs lire un passage de l'une de ses chroniques qu'elle a publiée dans le journal Le Monde, il n'y a pas très longtemps. Ça s'appelle « Hétéro, cisgenre et monogame, qui rêve encore d'être normal ?» Un couple fidèle, ne cherchant pas à faire un bébé dans l'immédiat, peut renoncer à la pénétration obligatoire ou peut la décorréler du corps des femmes. Il peut ne plus penser du tout en termes de pénétration. Il peut se sentir bien dans ses genres, mais s'être débarrassé des comportements qui leur sont associés. Il accepte qu'on puisse être en situation de réceptivité sans être en position de passivité, qu'on puisse pénétrer en étant dominé. Il sait que les hommes sont pénétrables par la bouche, par l'anus et par le pénis, et présentent donc le même potentiel de réceptivité que les femmes. Il considère les parties génitales comme une simple option érotique et cesse de découper les corps en morceaux hiérarchisés. Il sort le rapport de sa temporalité purement charnelle. Et parce que la liste serait infiniment longue, embrayons directement sur le plus important. Ce couple hétéro, cisgenre, monogame, un peu queer mais pas tradi, adopte des pratiques non scriptées au quotidien. et ne les réserve aucunement à des moments exceptionnels. Bon, moi, je trouve que ça, c'est quand même inspirant pour penser la sexualité autrement. Bref, peu importe ce que les autres ou la majorité attendent ou ce que tu penses que les gens attendent, tu peux décider de ce que toi, tu as envie d'explorer. Et je suis quasiment certaine que tu vas trouver des partenaires enthousiastes qui auront envie de t'accompagner dans ce genre de recherche. Et puis, pour changer tes représentations, je te recommande donc de lire tout ce que tu pourras trouver signé par Maya Mazorette. D'ailleurs, je crois qu'elle sort un nouvel essai à la rentrée. Donc, vive Maya et bonne exploration, Christophe. Maintenant, je voudrais qu'on écoute le message de Marie, qui m'a donc donné l'autorisation de le diffuser. Et ce message-là m'a beaucoup émue. Il est un peu long, mais je vous demande de l'écouter, parce que je le trouve important.
Salut, alors d'abord merci pour tout ce travail très important que vous faites d'information et d'échange. Toi, tes invités, tes collègues, toute ton équipe, bravo, bravo et merci beaucoup. C'est une bouffée d'oxygène pour mon cerveau. Toutes ces belles choses que vous partagez, ces choses très intéressantes que vous nous montrez, que vous nous apprenez. Ça fait du bien de ne pas se sentir seule aussi. Donc moi, je voulais parler de mon couple. Je suis avec un garçon qui a vécu fort le sexisme, en tout cas de près, puisque donc, sa maman a été violée. Son ex-copine, avec qui il est resté 7 ans, avait été également violée ou agressée. Je sais, je connais pas bien les détails, puis je me suis jamais permise de pousser les questions plus que ça. Et moi, personnellement, donc, j'ai également été violée il y a quelques années, vers la fin de mon adolescence. Du coup, alors, ce qui m'a fait mal avec MeToo cette année, alors, il a fait de son mieux pour m'accompagner. Il m'a accompagnée d'ailleurs quand on a été à MeToo dans la vraie vie, où il y a pas mal de femmes qui ont réussi, et d'hommes également d'ailleurs, qui ont réussi à témoigner en pleine rue dans notre ville. Bon, moi, j'en étais pas capable. J'ai pris la parole pour dire que j'en étais pas capable, mais que j'étais impressionnée et reconnaissante de ce rassemblement. Et puis, il était là. Du coup, en dernière minute, il s'est décidé pour être avec moi. Donc, il s'est rendu compte à ce moment-là de l'importance de son soutien. Mais par contre, donc moi, du coup, je déconstruis beaucoup. Je suis dans ce processus féministe qui est incessant de déconstruction, d'apprendre des choses, dans un but aussi politique, d'espérer qu'il y a des choses qui vont continuer à changer, de se dire que là, il y a des portes qui s'ouvrent, qu'il y a des choses à faire exploser pour avancer, des choses qui ne demandent pas forcément d'explosion, mais qui demandent à être travaillées sur la durée, dans la communication entre pairs, dans l'éducation entre pairs, l'éducation des enfants. Et en fait, il s'avère que avec mon compagnon, c'est impossible de discuter de ça. Il a bloqué, en fait. Alors, il y a eu toute une période où il a très mal vécu l'après MeToo parce que il pensait que je le rangeais dans le camp des agresseurs. Il s'est senti, en fait, il a retourné, comme le font beaucoup d'hommes, et c'est un peu malheureux, mais il a retourné le truc sur lui, en fait. Donc, il a vécu ça comme une problématique, finalement, un peu égoïste à certains moments. Et puis voilà, moi du coup, je dois être dans la pédagogie, et je dois éviter le sujet. Et d'un autre côté, comme j'ai quand même envie de son soutien, parce que pour moi, c'est une quête, cette déconstruction, c'est une quête qui est vitale pour continuer chaque jour à me réapproprier mon identité, mon corps, ma sexualité, j'ai envie d'un peu de soutien, parce que des fois, je suis fatiguée, c'est fatigant de pas pouvoir parler de ça, que ces sujets soient invisibilisés en société parce qu'on risque toujours de froisser quelqu'un. Enfin, alors que pour moi, ça paraît tellement évident qu'il faut les aborder pour que les choses changent. Et puis voilà, je trouve pas ce soutien-là chez mon copain qui maintenant, clairement refuse complètement d'aborder les sujets. Alors j'ai essayé de travailler sur une nouvelle fois l'andragogie, du coup pas la pédagogie, mais l'andragogie. Donc comment aborder certains sujets avec les adultes sans froisser, qu'il faut faire attention de pas froisser les hommes, et ça c'est fatigant, et c'est fatigant que qu'ils le comprennent pas et qu'à un moment ils puissent pas se mettre de côté pour donner un petit peu de son soutien. Je lui demande pas d'être militant, de sortir ses banderoles, je lui demande pas d'aller faire du bénévolat dans une asso, je lui demande pas, enfin j'ai juste besoin que quand je lui demande de lire un chapitre d'un livre ou de regarder un épisode d'une série ou d'écouter Les Couilles sur la Table par exemple, avoir son avis, parce que c'est important pour moi d'avoir son avis et de sentir que je suis soutenue dans cette démarche, bah, j'aimerais juste qu'ils me disent oui. Ou alors qu'ils me disent non, mais avec des explications, parce que maintenant il n'y a même plus d'explications. Il m'a dit l'autre jour, j'ai fait une overdose du sujet. C'est général, c'est pas que toi, mais j'ai fait une overdose du sujet. Je trouve ça un peu couillu de me dire ça à moi, en fait. Et je voudrais bien savoir, qu'est-ce que t'en penses ?
Alors, moi, ça fait 3 fois que j'écoute ce message et je suis. Je suis toujours un peu scotchée. Bon, déjà, merci d'avoir accepté que je diffuse ton message, Marie. Et merci d'avoir eu le courage de le livrer et aussi de livrer ton témoignage sur cette violence que tu as subie. En fait, j'ai l'impression que c'est assez fréquent, les couples hétérosexuels où la femme est féministe et l'homme ne veut pas en entendre parler. Et c'est aussi fréquent d'entendre des filles qui, du coup, on est là, on se dit, on se torture pour trouver les bons mots et pour dire que quand même, faudrait pas avoir l'air relou et qu'il faudrait expliquer et tout ça. Et ça se comprend, c'est difficile de son côté. En plus, on est vraiment socialisé pour se mettre à la place des autres et les comprendre et ne pas vouloir les brusquer, ne pas vouloir avoir l'air relou et tout ça. En fait, l'attitude de ton copain, ça rejoint la question que je pose à tous mes invités, c'est pourquoi c'est tellement insupportable d'entendre parler de sa domination quand on est dominant. Ça a été épidermique pour énormément d'hommes d'entendre parler de MeToo, de balance ton porc et tout, c'est horrible. Et c'est la même chose avec les blancs et le racisme souvent. Donc j'ai envie de lui demander pourquoi c'est tellement insupportable pour lui d'entendre parler des violences sexuelles. Pourquoi il s'engage pas, pourquoi il bloque ? Bien sûr, on peut comprendre qu'on n'ait pas envie d'entendre parler, on est humain, on n'a pas envie de changer, et c'est clair que dès qu'on commence à analyser le monde par le prisme féministe, tout est chamboulé. Nos représentations, nos manières d'aimer, de se comporter, notre manière de nous voir, enfin notre identité est bouleversée. Ton copain dit qu'il a fait une overdose. Ça aussi on l'a entendu, mais moi je trouve qu'un sujet aussi grave que les inégalités entre les hommes et les femmes, et les violences sexuelles, en fait on devrait en parler tout le temps. Le truc grave, c'est qu'on n'en ait pas parlé jusqu'à maintenant, ou très peu. C'est révélateur de dire qu'on en a fait une overdose. En fait, c'est toujours les sujets liés aux femmes dont on dit qu'on fait une overdose. Imagine qu'on dise la même chose de la politique ou de l'économie. Genre, ah bah non, on va pas encore parler du chômage, on en a parlé le mois dernier. Ah bah non, on va pas parler d'écologie, on en a parlé l'année dernière. Non. Bien sûr qu'on parle tous les jours des rapports de genre et de violences sexuelles, et on parle tous les jours normalement d'écologie, de l'économie, de notre alimentation, parce que c'est la matière même dont est faite nos vies. Le truc grave, c'est qu'avant, on n'en parlait jamais. Je ne sais pas trop quoi te conseiller, Marie. Je ne sais pas. Je trouve que c'est évidemment une position difficile que de continuer à aimer et à être en couple avec quelqu'un dont les valeurs sont en contradiction profonde avec les nôtres. Donc je vous souhaite de continuer à parler. J'espère qu'il va continuer à te soutenir un peu, à s'ouvrir et peut-être à changer. Et je pense bien à vous et je vous souhaite bon courage. Voilà. Maintenant, juste en vrac, car le temps presse, Vivian m'a envoyé un article brillant qui s'appelle « Pour une nouvelle éducation sentimentale ». Je vais mettre le lien sur le site. C'est extrait de la revue bretonne de critique sociale Ars Labour. Simon m'a envoyé une chanson savoureuse venue de 1975 qui s'appelle Les Hommes, qui a été écrite et chantée par Henri Tachant, que je chantonne maintenant sur mon vélo. Je vous la mets aussi sur le site. Et je connaissais pas Henri Tachant, mais c'est un auteur merveilleux, donc écoutez ses chansons. Si vous ne savez pas quoi lire ou quoi regarder cet été, je vous ai posté sur la page Facebook de l'émission un petit post qui récapitule l'ensemble des œuvres qui ont été conseillées par les invités cette année. L'été, c'est aussi, quand on a plus de temps, le moment idéal pour écouter plein de podcasts et en faire écouter à vos amis. Donc si ils ou elles ne connaissent pas, convertissez-les. Moi, j'ai trop hâte d'en écouter en faisant du vélo quelque part au bord de l'eau en Europe. Et oui, je ferai attention, je mets un casque. C'est C'était le dernier épisode de la saison numéro 1 des couilles sur la table. Je vais terminer en prenant le temps de remercier chacun des membres de notre incroyable équipe Binge Audio. À la réalisation, le jeune Quentin Bresson. Plus rapide que l'éclair, l'oreille alerte et les idées frétillantes, c'est lui qui prend le son de tous les épisodes, qui les mixe et qui les réalise. Merci Quentin. À l'édition, Camille Regache, ses yeux de lynx et ses conseils avisés. À la direction artistique, Julien Sarnobori, l'auteur de Super-Héros et son goût impeccable. À la production, le bulldozer Joël Ronez. À la direction générale, Gabriel Boris-Charles, sans qui on dormirait probablement tous sur les ponts. Et sa lumineuse alliée Alban Fili, qui s'occupe aussi souvent de l'édition. Ce générique, dont on ne se lasse pas, est signé du subtil Théo Boulanger. Et le rédac-chef, c'est David Carzon, qui a toujours raison. Merci aussi à tous les invités qui ont accepté de venir au micro des couilles sur la table. Et merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs. Je vous souhaite un très bel été. Merci pour tout.
Salut, c'est Victoire Tuaillon du Cœur sur la table et des couilles sur la table. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 000 lieues sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie quand elles étaient ados. À l'époque, elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire personnelle, Caroline Potier, qui est devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment mieux écouter les survivantes et les survivants d'inceste ? Comment la police et la justice pourraient enfin mieux les traiter ? Comment vivre avec ? Et les agresseurs ? Qu'est-ce qu'on en fait des agresseurs ? Ce documentaire est beau, est intelligent, est bouleversant, et je pèse mes mots, il est d'utilité publique. Car en France, vous le savez sans doute, une personne sur 10 est victime d'inceste. Ça veut dire que nous sommes tous concernés dans notre métier ou dans nos relations personnelles. Dans cette série, vous apprendrez donc ce que nous pourrions tous et toutes faire si on veut un jour enfin éradiquer l'inceste. Alors pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair dans le podcast Le Cœur sur la table.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.